8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. On parle du cyberharcèlement sur le continent africain dont les femmes sont les premières victimes. Et notamment les femmes leaders d'opinion dont la parole publique dérange. Dans certaines sociétés patriarcales, l'espace digital comme la politique, ça reste encore le monopole des hommes. Selon l'UNESCO, en 2020, 73% de femmes journalistes ont été insultées, diffamées, intimidées ou menacées de mort. Alors quels sont les outils pour se protéger face à la haine en ligne ? Quelles responsabilité des plateformes et quelles sanctions efficaces pour protéger les femmes et les filles des trolls. On en cause avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Hachée Amat Mustapha.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, cinéaste, réalisatrice franco-tchadienne du documentaire Harcèlement 2.0, résilience des Africaines connectées. Vous donnez la parole à vos sœurs, comme vous le dites dans ce doc, aussi bien du continent mais également dans la diaspora pour libérer la parole autour du cyberharcèlement. Ça reste encore un sujet tabou chez les femmes victimes.
Oui, ça reste un sujet tabou. Merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
Bonjour aux voisins et aux voisines. Ça reste un sujet tabou parce que, comme vous venez de le souligner, dans les sociétés qui sont encore patriarcales et puis avec les tabous des questions de la sexualité et autres, c'est difficile en fait d'en parler, c'est difficile de s'assumer. Et dès qu'on veut un peu sortir des sentiers battus et de pas être dans un chemin arrêté, bah voilà, ce qui arrive très souvent, c'est du cyberharcèlement et toute forme de violence.
Ouais, d'où la notion de résilience dont on parlera bien sûr avec vous. Nous serons également en ligne avec Aïcha Dabo, journaliste, coordinatrice de projet de l'ONG panafricaine Africtiviste à Dakar au Sénégal, qui justement propose aussi des formations pour outiller, éduquer les femmes sur leurs droits et la sécurité numérique, notamment au Sénégal et en RDC. Puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous si vous avez été victime de cyberharcèlement. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Et bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Et allô ?
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Je suis Hachée Amat Mustapha, sociologue, réalisatrice et auteure. Aujourd'hui, je vous parle, je m'adresse à vous en tant que victime. Victime de cyberharcèlement que je subis depuis plusieurs années. Je ne suis pas la seule, nous sommes nombreuses. Dans ce film, je suis allée à la rencontre d'autres femmes, d'autres sœurs du continent africain et de la diaspora. Nous avons décidé de briser le silence. Nous avons décidé de parler, de raconter nos histoires, pour que personne ne dise qu'il n'a pas été au courant. Le cyberharcèlement est une réalité. Voici nos histoires.
C'est le début de votre documentaire, Hachée Amat Mustapha, vous témoignez en tant que victime face caméra. C'était essentiel pour vous de partir de votre propre expérience personnelle de victime sur les réseaux ?
C'était essentiel et je vais vous confier quelque chose, c'était pour moi aussi une espèce de thérapie. Parce que j'ai eu du mal à encaisser cela, parce que j'ai été calomniée. Donc, c'était...
Ça remonte à quand et pour quelle raison ?
C'était le 28 mai 2024. Je me suis réveillée parce que j'avais bloqué un compte et puis je me suis retrouvée avec des posts où ils ont extrait d'une autre sextape, enfin d'une vidéo d'une jeune dame qui était avec un homme. Et ils ont extrait une photo, ils ont pris une capture en disant que c'était moi. Et de là, c'est la photo qui a le plus été partagée, des appels, des messages, pendant des semaines et des semaines. Des insultes. Tout ce que je publiais, c'était « Ah, on a encore ta vidéo ». Même aujourd'hui, même là, pendant que je vous parle, ça continue. Donc, alors que ce n'était pas moi. Donc imaginez déjà que si c'était moi, ça aurait été autre chose, ça aurait été encore peut-être pire.
Vous dérangez aussi parce que vous êtes connue, hein, vous avez une notoriété aussi bien sur le réseau, mais voilà, une parole aussi au Tchad, notamment sur les droits des femmes. C'est ça le nœud du problème, les publications des livres.
Publications des livres, et puis il y a aussi le volet politique, en fait. Hein. Il faut être très sincère, j'ai fait le choix de ne pas en parler dans le film, mais en 2021, moi j'étais nommée, en 2019, j'étais nommée membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique pour Emmanuel Macron. Et je sais que ma vie a vraiment basculé après cela. Je me retrouve constamment attaquée, humiliée, insultée, traitée d'espionne de la France, de la République.
On vous reproche d'être trop européanisée.
Voilà, trop européanisée, pas assez couverte. Donc c'est politique, religieux, c'est sûrement physique. Alors... c'est systématiquement, tu ressembles... Alors, il y a à peine 48 heures, on me tague carrément hein, pour me dire « mais tu ressembles à une ardoise, t'es maigre », voilà, on m'insulte, mais constamment. Et très souvent, c'est quand je publie un post, on va dire un peu intellectuel. C'est quand vous parlez d'un sujet important de votre travail ou de votre carrière ou de votre succès, ou d'un sujet d'actualité, par exemple, le viol d'une femme ou quelque chose, bah, vous vous retrouvez, je me retrouve dans mon cas, vu qu'on parle de moi, là tout de suite, c'est de me rabaisser.
Ouais.
Voilà.
Salir la réputation, on va y revenir. On est en ligne avec Aïcha Dabo, qui est journaliste et coordinatrice du projet de l'ONG panafricaine Africtiviste à Dakar, au Sénégal. Bonjour Aïcha Dabo. Ah, est-ce qu'elle est là ou pas? On va rétablir la ligne dans quelques instants. De toute façon, ce que vous dites, la politique, voilà, quand une femme parle de politique, ça veut dire quoi? La politique, ça reste encore le monopole des hommes ou,
Je pense qu'il y a non seulement le fait que c'est un peu le monopole des hommes, mais sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la tête de cela. Et vu qu'on a déjà du mal à donner une place, à laisser une place à la femme quand il s'agit déjà même de tous les sujets, quand il s'agit de la politique, ben, on a du mal. Déjà, moi, personnellement, je ne me considère pas comme étant dans la politique. Quand je prends des sujets, ils sont purement autour des questions des droits des femmes, des jeunes. Je suis une sociologue, j'étudie la société. Enfin, j'exprime mes pensées à travers les arts, comme j'aime bien le dire. Mais c'est systématiquement tous les sujets... Malheureusement, il faut reconnaître. Hein, aujourd'hui, sur la partie politique en Afrique, avec le sentiment anti-français et tout ce qui se passe... tout ce que vous allez dire, si vous êtes africain ou binational ou de la diaspora, dans le cas de la diaspora, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le film, il parlait pas que des femmes africaines, mais aussi de la diaspora, vous êtes stigmatisé. Il y a des stéréotypes, il y a des préjugés. Et tout ce que vous allez dire va se retourner contre vous, en fait. Ouais. Il suffit juste de dire qu'il fait beau hein, pour avoir des problèmes.
Je pense qu'on a retrouvé une bonne ligne avec Aïcha Dabo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice de projet de l'ONG panafricaine Africtiviste à Dakar au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de nous écouter un petit peu avec Aché Amat Mustapha. On parlait du cyberharcèlement et notamment des femmes leaders d'opinion, des femmes sociologues, des femmes intellectuelles, des femmes journalistes, dès lors qu'elles parlent politique. Comment est-ce que c'est un constat que vous faites vous aussi, hein, puisqu'on va parler un petit peu de votre programme de formation pour outiller ces femmes-là, mais voilà, le cyberharcèlement, dès que une femme prend la parole en public et en politique sur les réseaux, ça y va, c'est la même mécanique.
Oui, effectivement, c'est le cas, surtout pour les femmes publiques, notamment les femmes qui sont dans la politique, les femmes journalistes, les femmes défenseurs des droits humains. Donc, toute femme qui est au devant de la scène, qui s'exprime, exprime ses opinions, qui parle de politique ou bien de droits humains, en tout cas, devient facilement une cible. Et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis que les réseaux sociaux sont là. Donc, c'est un constat qui a été fait. Et là, malheureusement, ça s'amplifie avec les différents outils qu'il y a. Donc, ça devient de plus en plus dangereux, surtout lorsque ça va jusqu'à affecter mentalement certaines personnes. Ou bien que l'adresse ou les données personnelles de ces femmes-là soient partagées, malheureusement.
Et du coup, avec votre ONG, vous vous formez hein, des femmes journalistes ou des activistes des droits humains sur les questions de la cybersécurité. En quoi consistent ces formations et en quoi ces femmes-là peuvent être ensuite des relais pour les autres alors ?
Oui, effectivement, nous avions déjà depuis 2017 un programme Afrique Média Cybersécurité qui ciblait aussi bien les femmes que les hommes, où on parlait de sécurité des données, d'utilisation d'Internet, utilisation responsable, paramétrage, hygiène numérique, etc. Et là, en 2022, on a lancé un programme spécifiquement pour les femmes qu'on appelle Femmes Cybersécurité, donc qui traite de questions sur l'hygiène numérique des femmes et aussi sur le cyberharcèlement, parce que dans tous les pays, les données montrent que les principales victimes du cyberharcèlement sont majoritairement les femmes. Donc, nous avons pensé qu'il était essentiel vraiment d'avoir un programme spécifique sur ça. Ouais. Maintenant, on forme les femmes, défenseurs des droits humains, acteurs de la société civile et journalistes. On les outille en fait à pouvoir partager ces données-là avec d'autres personnes, c'est-à-dire comment déjà marche Internet, comment est-ce que sécuriser ces données, parce que ces femmes souvent utilisent des données sensibles, donc comment crypter ces données, comment paramétrer les différentes plateformes numériques, comment paramétrer son téléphone pour ne pas exposer ses données personnelles, mais aussi quelles sont les réactions à avoir quand il y a un harcèlement répétitif et continu. Parce qu'il y a d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons aussi, qui ont aussi développé des manuels qui ciblent spécifiquement les femmes défenseurs des droits humains, les femmes dans la politique et les journalistes.
Oui, il y a toute une formation aussi à faire encore une fois, bien sûr, autour de la cybersécurité. Haché Amat Mustapha, vous avez fait le choix de donner la parole dans votre documentaire, effectivement, à des leaders d'opinion, des journalistes, des activistes, des créatrices de contenu, parce que plus exposées.
Ce sont les plus exposées, parce qu'elles sont vraiment au devant de la scène sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est encore elle. Bonjour Aïcha Dabo, et en plus, Madame Aïcha vient de très bien l'expliquer. Donc, ça me conforte, en fait, à me dire que c'est le bon choix et qu'il fallait insister. Parce que depuis que le film est sorti, on me dit, mais pourquoi pas que les hommes même hier, quand j'ai annoncé que je serais sur RFI, quelqu'un a dit, pourquoi pas le cyberharcèlement des hommes pourquoi que l'Afrique il faut travailler, il faut alerter sur ce qui se passe en Afrique, sur ce qui se passe avec les femmes, et notamment des femmes qui sont des leaders d'opinion, des femmes artistes, des féministes aussi, qu'il faut rajouter, parce qu'aujourd'hui, dès que vous voulez défendre une femme, elle est pseudo-féministe, et puis donc vous êtes attaquée, et puis vraiment, ça n'a pas de limite.
Et c'était compliqué d'ailleurs, avant d'écouter un extrait de votre documentaire, c'était compliqué justement de libérer la parole ou de convaincre ces femmes-là à témoigner à visage découvert, face caméra, sachant que beaucoup, beaucoup d'entre elles sont menacées de mort régulièrement sur les réseaux.
Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tout de suite eu des oui pour celles qui sont dans le documentaire. Il y a trois dames que j'ai contactées qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas souhaité intervenir. Il y en a au moins deux qui avaient dit oui et finalement qui ne se sont pas présentées à la dernière minute. Par exemple, même, vous avez vu dans le film, Docteur Mayra, je l'explique aussi, parce qu'au départ, je lui dis,
c'est
mais moi, je l'ai...
Docteur du Niger.
Du Niger, ouais. qui est ici en France, et à qui je dis, mais si tu te fais, mais tu es victime de cyberharcèlement, il faut venir en parler. Elle fait, mais non, moi, je ne me considère pas comme une victime. Et là, 7-8 mois après, je fais, finalement, t'es sûre, tu veux toujours pas? Elle dit, bah oui, j'accepte. Donc j'ai dit, mais par contre, là, on est en pleine post-production, on a commencé le montage du film, on doit reprendre l'interview avec toi, donc il faut que moi, je le dise dans ce film. C'est aussi pour montrer, parce que des fois, c'est pas soit c'est un déni, ou soit c'est qu'on minimise, peut-être que Madame Aïcha pourra mieux étayer ce que je veux expliquer par là. C'est, vous avez une catégorie de femmes qui pensent que c'est rien, de se faire insulter une ou deux ou trois fois. Dès que ça devient deux, trois fois la même chose, c'est fini. Vous êtes victime de cyberharcèlement. Il ne faut pas se taire.
On va faire réagir Aïcha Dabo chez les femmes que vous accompagnez. Elles minimisent, il y a un déni, il y a une peur, il y a une parole taboue autour de la notion de victime ou pas à Dakar, chez vous, dans votre ONG.
Bon, c'est quelque chose qui est là, et je veux juste revenir en arrière, c'est que c'est un transfert de ce qui se passe dans nos différentes sociétés qu'on amène en ligne. Donc, si on a déjà bon dos par rapport aux insultes, on peut ne pas réagir. C'est vraiment quand c'est une ou deux, même si on est victime, certaines décident de ne pas réagir. Mais quand il y a ce qu'on appelle les trolls, et que ça devient vraiment une vague hein, d'insultes, de caricatures, de partage de données personnelles. Là, ça devient plus sérieux. Maintenant, par exemple, spécifiquement au Sénégal, il y a des possibilités que les gens ont pour aller au département de la police qui s'occupe de la cybercriminalité, pour aller porter plainte et faire état de ce qui a été fait. Ça peut être insulte publique, harcèlement, etc. Maintenant, nous, ce qu'on a voulu faire à travers cette campagne-là qui a commencé au Sénégal, c'est de sensibiliser davantage les gens. Mmh. Parce qu'il y a certains qui se comportent comme ça, sans savoir en fait que ce qu'ils font est illégal. Il y a ça. Il y a ceux qui le font expressément en pensant qu'ils sont dans un monde Internet, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas remonter à la source, alors que c'est faux. Et il y a des femmes qui, de l'autre côté, elles subissent mais ne savent pas comment réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation-là. Ouais, donc, nous avons développé des outils pour permettre, en fait, on informe, on sensibilise et aussi on éduque, pour permettre aux gens de mieux
anticiper et réagir
à ce problème-là. Oui.
Et on
a impliqué les hommes aussi dans ce combat-là.
Pour vous, les hommes ont un rôle à jouer aussi dans ce cyberharcèlement qui vise les femmes. On reparlera tout à l'heure de votre outil, boîte à outils, justement, pour les femmes notamment, et parmi les femmes publiques victimes du harcèlement qu'on retrouve dans votre documentaire que vous avez rencontré. On va écouter le témoignage de Mariuska, la slameuse congolaise.
Encore plus que le slam s'enflamme, je n'ai pas le corps en guitare ni la belle voix de Myriam Makeba. Ou encore moins la plume de Mariama Ba. Je ne suis pas Winnie Mandela, ni la juriste Michelle Obama. Je ne suis que Mariuska, une jeune artiste slameuse congolaise qui en fait droit a choisi d'écrire sa voix sur la voie de l'art oratoire qu'est le slam.
Ça a commencé beaucoup plus quand j'ai commencé à avoir un peu le vent en poupe, parce qu'au début, ce n'était pas des choses que je subissais. Mais quand on a commencé à avoir un peu de visibilité dans nos activités, il y a commencé à avoir des commentaires pas beaux du tout, pas bons du tout. En tant qu'artiste, en tant que femme, on est souvent en proie au cyberharcèlement de plusieurs manières. Et moi, en tant qu'artiste, c'est généralement sur les réseaux sociaux, à travers les posts, les commentaires des gens. Leur retour, c'est soit ils t'attaquent, soit ils m'attaquent à travers mon accoutrement, mon habillement, ou avec ma manière de faire ou d'aborder mes activités artistiques. Généralement, ce sont des commentaires désobligeants. S'ils ne passent pas en termes de commentaires publics, c'est dans les inbox, comme on le dit. Mais ce sont souvent des gens qui prennent un malin plaisir derrière leur écran à généralement vous envoyer des propos blessants.
Je m'appelle Oumi Ndour, je suis journaliste, attachée de presse et je suis sénégalaise.
Mondial et le Connect for Climate. Et c'est,
J'ai été victime de cyberharcèlement et je continue à être victime de cyberharcèlement. 2022 à 2024, j'étais victime d'un individu qui, sous un pseudo, a commencé par solliciter une connexion sur Facebook que j'ai refusée. J'ai même pas refusé, je l'ai ignoré parce que je le connaissais pas. Et puis, comme il voyait que je répondais pas, il a commencé par des attaques. Ouais, c'est une salafiste, c'est une intégriste, c'est une partisane de PASTEF. Parce qu'en ce moment-là, on était dans une période où l'affrontement entre PASTEF et le pouvoir de Macky Sall était très 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 violent. Il fallait m'accuser d'être une partisane de ce qu'ils appellent le projet pour pouvoir salir ma réputation auprès des autorités en place, parce que depuis que j'ai quitté la télé, je travaille comme attachée de presse et je travaille beaucoup comme maîtresse de cérémonie d'événements institutionnels, voilà.
La journaliste sénégalaise Oumi Ndour, à votre micro, Aïcha Amat Mustapha. Attaque physique, attaque religieuse, attaque politique, c'est toujours finalement la même mécanique. Et le but du jeu, c'est d'effacer la parole publique, notamment sur le net, quoi, comme si le digital restait là encore le monopole des hommes, pour certains conservateurs ou harceleurs.
C'est multiforme.
Multiforme.
C'est-à-dire que quand on essaie de vous attaquer sur votre physique et qu'on voit que vous ne réagissez pas, on va revenir sur la politique. Si sur la politique ça passe pas, c'est sur la religion. On essaye tout. On tente le tout pour le tout, comme on dit, pour vous museler.
Cette journaliste, elle a retrouvé son cyberharceleur. Hein.
Elle l'a trouvé, en fait. Ouais. On est en train de leur spoiler le film, là. C'est les voisins et les voisines ne vont pas aller le voir. Non, vous inquiétez pas. Oui, elle l'a retrouvé. Elle est allée à la brigade de la cybercriminalité. Enfin, d'ailleurs, Madame Aïcha, elle en parle tout à l'heure. Et c'est ça. C'est ce qui était beau pour moi, en fait, de mettre ça en avant. Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit partout comme ça.
C'est possible.
Que quand on vous harcèle, qu'on attrape votre harceleur et qu'on le présente à la justice, qu'on montre l'exemple, en fait, pour mettre fin à cela. Parce que, mine de rien, vous savez, il y a des gens qui meurent de cela.
Bien sûr. Suicide, dépression, isolement. On reparlera dans quelques instants, justement, des outils aussi législatifs contre le cyberharcèlement. C'est juste après la chanteuse française Pyjama, avec Carnet Secret sur RFI.
Ma chambre, tout au fond de mon lit. Je chante, je tremble, je me fais rire et j'écris ces lignes. C'est comme avant, j'ai pas trop d'amis. J'ai froid, je crois que je suis triste, mais je fais des rimes. Car
thank you.
de chambre, Carnet Secret, un titre à trouver sur la playlist de RFI, la chanteuse Pyjama. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Quels sont les leviers efficaces pour lutter contre le cyberharcèlement sur le continent africain dont les femmes sont les premières victimes? On en cause avec nos deux invités, Aïcha Dabo, journaliste, coordinatrice de projet de l'ONG Africtiviste à Dakar au Sénégal, et Achiamat Mustapha, sociologue, réalisatrice franco-tchadienne du documentaire Harcèlement 2.0. Résilience des Africaines connectées. On écoute un nouvel extrait.
Je suis Mouna Rhiani, je suis coach yoga. Je suis une activiste militante sur les réseaux sociaux. Donc je poste énormément ce que je pense et mes réactions par rapport à ce qui se passe, par rapport à la loi marocaine, par rapport à surtout le code de la famille, les agressions faites aux femmes. Les discriminations et les maltraitances d'enfants. J'ai déjà été victime de cyberharcèlement sur Internet, surtout sur Instagram, où j'ai reçu des menaces de mort, des messages d'intimidation, d'égorgement, où j'ai aussi eu mon nom et mon prénom sur une liste d'ennemis de l'islam et de personnes à éliminer. Ça a commencé quand j'ai commencé à parler par rapport à la réforme du code de la famille au Maroc, où je défendais le fait que j'étais pour la criminalisation de mariage de mineurs. Ma réaction tout de suite après les menaces de mort, menaces d'égorgement de ma fille, qu'on allait l'égorger devant moi et puis après qu'on allait passer à moi, comme ça je souffrirais énormément. J'ai eu très très peur. Pendant une semaine, j'ai minimisé mes sorties. C'était juste en cas de besoin. Ça m'a complètement handicapée. J'étais pas la seule. On était 22 féministes marocaines à avoir été la cible de ces menaces. Il y en a où c'est parti plus loin. On a été chercher leurs parents. Moi, par exemple, avant, je ne postais pas ma vie privée. Je n'ai jamais communiqué sur le fait que j'avais un enfant, que j'étais mariée ou pas, et on a quand même trouvé que j'avais une fille, ouais, la ville où j'habitais. Donc j'ai eu très très peur pour la vie de ma fille surtout. J'ai aussi été victime d'usurpation d'identité où on a créé un faux compte à mon nom et on envoyait, on promettait en tout cas d'envoyer des photos et des vidéos nues de moi en contrepartie de 200 dirhams, ce qui est déjà très bas et très rabaissant. Et le message qui m'avait le plus marqué par rapport à tous ces messages de haine, c'était le fait qu'on dise que j'étais trop francisée, que je n'étais pas légitime de parler du peuple marocain, des injustices vécues par les femmes marocaines, que ce soit dans le code de la famille ou dans la société, alors que je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, j'ai jamais quitté cette patrie et je suis plus que légitime.
Et oui, la question de la légitimité en tant que femme, hein, même si elle est marocaine, forcément, c'est pas anodin, ça revient aussi souvent. Elle nous raconte aussi la peur, les peurs et des femmes qui se sentent aussi, chez Amat Mustapha, quoi, impuissantes, victimes. Quelle responsabilité des plateformes, quelles lois non appliquées, pas simple. C'est pas... David contre Goliath, quoi.
Exactement. Et ce qui ressort vraiment, oui, il y a la peur. Mais après aussi, est-ce qu'il faut montrer qu'on a peur ? Parce que quand vous ne savez pas qui est derrière les trolls, les faux comptes, qui sont vos harceleurs, vous devez aussi de ne pas montrer aussi certaines faiblesses. Parce que vous ne savez pas comment ces personnes-là vont vous frapper. Quand je dis frapper, je parle de comment ils vont encore vous attaquer, comment est-ce que ça va s'accentuer.
Oui, mais il y a certaines créatrices de contenu dont on voit dans le documentaire qui disent « moi, ben, finalement, peut-être qu'il faudrait que j'arrête, quoi ».
Oui, il y en a qui veulent arrêter, mais en même temps, elles n'arrêtent pas. Ouais. Pour autant. Elles n'arrêtent pas pour autant parce que quelque part, vous avez aussi cette capacité de résilience. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de résistance dans le titre, mais de résilience pour montrer que voilà, malgré tout ce qui se passe, vous avez des femmes comme les Oumi, comme les Mariuska, comme Kadalia Ahmed, comme les Mouna Rhiani, qui sont décidées à être sur les réseaux sociaux, à parler. Maintenant, la responsabilité, c'est les plateformes. Moi, j'indexe les plateformes. Hein, parce que ce qui ressort, c'est quoi ? C'est que vous êtes insulté quotidiennement. Vous êtes humilié. Au-delà de la calomnie, c'est que c'est très, très grave. Que ce soit... Il y a des conséquences psychologiques, psycho-émotionnelles, etc.
Vous avez des gens qui vont jusqu'à faire des tentatives de suicide, des gens qui meurent. Et derrière, les plateformes se font de l'argent. Vous signalez, on l'arrête. Moi, combien de fois est-ce que quand je signale ou que je bloque, même les mêmes personnes me disent « tu me bloques, je créerai un autre compte ». À un moment, je me suis amusée pendant des mois. C'est une façon de parler. Voilà, mais j'ai même posté. J'ai dit « écoutez, je me suis prise moi-même comme étant un échantillon de mon propre film. Je postais, mais tellement, juste pour voir est-ce que ce que je dis est vrai. Je faisais mes propres études, mes recherches moi-même. Je me suis prise moi-même pour un cas d'école, quoi. Mais quand... vous publiez plusieurs fois, c'est soit ah ben, tu es très nombreuse. Un homme va faire 5 publications par jour, il n'y aura rien. Mais quand c'est haché ou c'est omis ou autre, ça sera tu es très nombreuse sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Après, quand vous bloquez, la personne, elle vous dit hein, moi, je rigole pas. Moi, j'ai eu des commentaires comme ça où il y a un monsieur, par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, il me dit moi, tu me connais pas, tu me bloques, je reviendrai. Et je vous jure que cette personne, elle est revenue à 3 reprises avec des faux comptes. Je rebloque. Il revient, il dit tu m'as bloqué, me voilà. Sur une trentaine de minutes, la personne, elle est revenue à 3 reprises. Ouais. Et comme si ça ne suffisait pas, c'était sur Facebook, elle est repartie sur X.
C'est la toile d'araignée. Aïcha Dabou, que vous suggère le témoignage d'Aïcha Amat Mustapha? Et puis, on parle de la responsabilité des plateformes. Vous mettez aussi en place des boîtes à outils, hein?
Oui, effectivement, nous mettons en place des boîtes à outils parce que nous avons une approche à 5 points. Donc la première, on en a parlé, c'est la formation. La deuxième, c'est le plaidoyer, en fait, des régulations qui respectent les droits humains ou bien des lois qui prennent en compte les droits des uns et des autres. Le troisième point, c'est les campagnes d'éducation, information, sensibilisation. Ensuite, nous avons ressources et recherches. Donc, recherche pour déjà qu'il y ait des données qui montrent l'étendue dans différents pays de ce problème-là. On développe aussi des outils et des manuels. Et ensuite, il y a la création de communautés. Donc, c'est les femmes qui ont été formées en audit numérique ou bien en hygiène numérique, cybersécurité. Et il y a aussi une communauté de pratique qu'on a mis en place au Sénégal, des femmes de différents background politique, des femmes au foyer, des vendeuses, etc. Maintenant, pour ce qui est de l'outil, on l'a développé pour que ça soit un outil assez ludique que toute personne à partir de 10 ans peut utiliser. Et c'est des points, vraiment des questions très simples. Vous faites face, par exemple, à des commentaires dégradants sur Internet. Donc, on vous propose quatre réponses. Donc, on vous demande de répondre hein, selon votre compréhension de la situation. Et ensuite, à la fin, on vous propose une solution. Et ces boîtes-là ont été distribuées parce que nous savons que ça se passe en ligne, mais nous prenons en compte le fait que tout le monde n'est pas en ligne. Donc, nous avons imprimé des boîtes qui ont été distribuées un peu partout. Mais aussi, nous avons une plateforme où il y a le quiz avec les mêmes questions et réponses. Donc, les gens peuvent consulter et vraiment proposer, tester leur niveau de maturité par rapport à comment faire face au harcèlement. Et dans cet outil-là, on a proposé différentes plateformes, les différentes plateformes sociaux qui existent et quelles sont les possibilités que vous avez de bloquer ou bien d'aller à la police si vous voulez, ou bien si vous voulez discuter avec quelqu'un pour avoir des solutions. Et là, nous sommes en finalisation d'un chatbot IA, donc qui va permettre aux gens d'aller sur la plateforme, de poser des questions et d'avoir des réponses. Parce que notre campagne, en fait, on avait aussi une campagne médiatique dans le Wolof, la langue que parle majoritairement le pays, pour présenter le problème, comment faire face. Et nous avons reçu tellement d'appels, on ne s'attendait pas à autant d'appels de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont fait face à des situations où on les menaçait de publication de leurs données personnelles ou bien de leur adresse et tout. Et on s'est occupé de l'aspect hygiène numérique et on les a référés à nos contacts au niveau de la police ou de la commission des données personnelles, donc de la CDP.
Il faut des boîtes à outils, il faut de la sensibilisation, il faut de la communication, ça c'est sûr. On reviendra aussi à l'attention d'un public plus jeune. Mais on en parlait, Aïcha Amat Mustapha, hors micro, vous êtes très inquiète notamment de l'IA aussi dans les fake news et dans le cyberharcèlement, notamment sexiste aussi.
Oui, et on l'a abordé dans le film avec l'expert en cybersécurité, Fabrice Eckey, qui parlait de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle va engendrer dans les prochaines années. Et la question de la désinformation, c'était très important pour moi. Donc là, c'est la grande sœur Niagale Bagayogo, qui est politologue, qui en parle aussi. Et dans le film, elle explique aussi. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la désinformation, sur le continent africain, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de commencer dès maintenant à se rendre compte que ce n'est pas anodin. L'utilisation des réseaux sociaux, je suis désolée de le dire, sur le continent africain, n'est pas à bon escient. Vous allez me dire que c'est partout comme ça, mais en Afrique, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas totalement outillés. Il y a vraiment beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup d'analphabétisme aussi sur le continent. Donc, quand on ne maîtrise pas cet outil-là, quand on ne sait pas de quoi il s'agit...
D'où l'intérêt d'où l'intérêt de ces ONG-là
de ces ONG aussi. Oui. Il faut sensibiliser, il faut outiller les uns les autres. Mais moi, je reviens sur deux choses. C'est aussi la responsabilité des plateformes. L'IA n'est pas venue de nulle part. Elle a été créée. Donc, elle est là pour nous faciliter la vie. Mais si demain, elle est là pour déstabiliser la vie des gens, pour déstabiliser des régimes, etc., etc., chacun va l'utiliser à des fins personnelles pour pouvoir faire du mal à l'autre.
Il y a des sanctions, il y a des législations, il y a des demandes de modération, mais qui ne sont pas appliquées, pas que sur le continent africain, hein, d'ailleurs. Hein.
Je vais vous dire ce que j'ai dit, peut-être hors micro, mais même que je dis à qui veut l'entendre, c'est qu'aujourd'hui, une personne comme Haché se fait harceler. Même si je vais porter plainte, bah, ça va prendre un an, ça va prendre deux ans, bah, peut-être même que personne ne va m'écouter. D'accord ? Pour pouvoir aller retrouver ces personnes-là. Mais si aujourd'hui, Haché, avec un faux compte par exemple, s'en prend au régime en place de son pays, on trouvera en moins de 24 heures où je suis le moyen et je vais me faire arrêter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des renseignements sur le continent africain qui sont quand même très performants. Si on est à mesure d'attraper des gens qui font un peu, on va dire, je vais parler aussi au mode jeunes, là, du sale à des autorités. Donc, il faudrait aussi faire utiliser le même procédé pour attraper et traquer les cyberharceleurs qui embêtent les femmes. Mmh. Parce que les femmes, c'est quoi ? Ce sont les mamans, ce sont les sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient de manière comme ça anodine ou ne prennent pas au sérieux le cyberharcèlement parce que ça ne les a pas touchés directement. Demain, ça peut être votre sœur, ça peut être votre femme, ça peut être votre cousine, ça peut être la voisine d'à côté que vous affectionnez. Et qu'est-ce que vous allez faire ? C'est là que vous allez vous lever ? Ben non, pas du tout. Il va falloir travailler dès maintenant. Et encore une fois, ce que je vous ai dit hors micro, je vais le redire. Moi, ils ont utilisé la vidéo de quelqu'un d'autre. Imaginez si ça avait été l'intelligence artificielle. Imaginez. Vous avez un pays où beaucoup de gens sont illettrés. Vous pensez que les gens vont croire que ce n'était pas moi ? Parce que beaucoup disaient, par exemple, « Bah oui, de toute façon, elle ne se couvre pas la tête, c'est sûr qu'elle fait des choses comme ça. » Alors, vous voyez le niveau de...
Je pense que ça peut faire réagir à Aïcha Dabo parce que votre ONG Afriktivist se présente comme une sentinelle de la démocratie. Donc j'imagine que tout ce qui est troll, IA, fake news, ça vous inquiète.
Oui, bien sûr, effectivement, et je comprends bien ce que Mme Haché dit, c'est un fléau, et effectivement, avec la désinformation, ça aggrave les choses. Mais le plaidoyer aussi fait partie intégrante, en fait, de nos approches. Elle a mentionné tout à l'heure le fait qu'au niveau continental, qu'on soit desservi face aux plateformes. Malheureusement, c'est la réalité. La plupart du temps, c'est des gouvernements qui ont tendance à dicter leur approche quand il s'agit de questions politiques. Mais l'énergie qu'ils mettent face à couper Internet quand il y a un problème politique, mais voici un problème social qui affecte les femmes. Il faudra aussi cette même énergie-là. Au niveau continental, il y a la Convention de Malabo sur la cybersécurité et les données personnelles qui a été signée par une quinzaine de pays. Lui a plusieurs conventions, protocoles et autres par rapport aux données personnelles. Et la transformation digitale est aussi spécifiquement à l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui nous manque au niveau continental, en fait, pour faire le poids avoir un poids et faire face à, aux plateformes, c'est cette coordination-là qu'on a par exemple au niveau de l'Union européenne, où c'est les différents États qui vont négocier en tant qu'entité avec assez de pouvoir. Et malheureusement, la plupart du temps, les outils néfastes sont testés au niveau continental avant qu'on les amène ailleurs. Et aussi, un autre point assez important, c'est que en tant qu'ONG, nous et d'autres personnes, nous discutons avec ces plateformes-là aussi. On ne se limite pas juste à attendre ce que peuvent faire les États, mais on discute, par exemple, nous, en tant que structure, on discute, échange sur les problèmes avec Meta, qui regroupe Facebook, WhatsApp et les autres, mais aussi avec TikTok. Donc, on a des discussions assez franches.
Des discussions qui débouchent sur des mesures concrètes aussi ou pas?
Oui, oui, pour certaines. Certaines, ouais. Pas tout le temps, c'est pas aussi automatique qu'on aimerait, mais il y a cette porte ouverte-là qui est à notre niveau et à leur niveau, il y a des discussions vraiment et il y a certains changements qui se font petit à petit. Et pour nous, bon, c'est quelque chose à apprendre en attendant qu'au niveau continental, qu'il y ait une meilleure organisation. Pour ce qui est des ONG ou de la société civile continentale, elle est assez organisée, il y a plusieurs plateformes pour ce qui est des données. Il y a l'Alliance de protection africaine pour la protection des données personnelles qui existe. Il y en a tellement, mais c'est au niveau des États, malheureusement, où il n'y a pas assez de force, pour pouvoir apporter ce changement-là dont on a besoin.
Comment se protéger en utilisant les outils numériques? C'est la question chez Amat Mustapha que vous avez posée à l'avocat Maître Mamadou Ismaïla Konaté. C'est l'ancien ministre de la Justice au Mali.
Ce qui est le plus important, c'est d'identifier les éléments de preuve que l'on peut réunir en vue d'une plainte. Il ne faut jamais fuir, parce qu'en fuyant, vous êtes une victime parmi mille autres qui ne donnent pas l'occasion à la justice de se saisir et éventuellement détecter le comportement de cette personne. Ne vous mettez pas dans la négativité en disant « il n'y a aucune chance éventuellement qu'on détecte la personne ». On arrive toujours à détecter la personne, on arrive toujours à détecter la zone, la machine, le temps, les moyens et tout ce qui a été mis en œuvre. C'est autant de comportements de ce genre-là que la justice, par le biais des enquêtes, croise. Et lorsque on sait, par exemple, qu'au fin fond de N'Djamena ou à Bamako ou à Dakar, nous avons le même type de comportement de la même personne pratiquement, vous savez pertinemment qu'il s'agit d'une bande.
Hello. Merci, d'accord. Ok, on est presque à 200 personnes connectées. Là on est à 208, on peut commencer. En Afrique, je n'ai pas vraiment de référence de personnes ayant gagné un procès ou une affaire de cyberharcèlement. Parce qu'en général, les victimes de cyberharcèlement sont toujours prises pour cible. Parce qu'on, bref, ce qu'on dit en général, c'est que voilà, tu t'es exposé, donc maintenant assume. Donc il y a des préjugés, il y a des stéréotypes sur les créateurs de contenu. Et du coup, on subit un peu le cyberharcèlement sans pouvoir en parler. On a comme les points liés en fait.
C'est Kimi, la créatrice de contenu. Il nous reste deux petites minutes pour terminer, Acha Amat Mustapha. Quel message vous vouliez passer, par exemple, à nos auditrices voisines qui ont l'impression d'avoir les points liés, qui n'osent pas en parler, pour qui c'est tabou, qui vivent mal dans leur physique, dans leur peau?
Dans le film, déjà, la conclusion était pour tout le monde la même. C'est briser le silence. Il faut parler. Je peux vous dire quand même quelque chose. Depuis que j'ai annoncé la sortie du film, je reconnais quelque chose. C'est que le cyberharcèlement a légèrement diminué. Est-ce que parce que mes harceleurs, s'ils m'écoutent, se disent que désormais, je ne les lâcherai pas? Ou est-ce que c'est la peur de savoir que maintenant, il y a une lumière sur cette thématique et que tôt ou tard, on va les retrouver? Je ne sais pas. Je laisserai le temps faire les choses. Donc, mesdames, mes chères voisines, mes chères sœurs, brisez le silence, parlez. Parce que quand vous parlez, vous avez derrière des gens. Vous pouvez penser que vous êtes seule, mais vous n'êtes pas seule. Et au-delà de ça, quand les femmes, elles parlent, mon plaidoyer, c'est qu'il faut qu'il y ait des vraies structures d'écoute, d'accompagnement, que la justice puisse se saisir de ce sujet-là. Il ne faut pas attendre que la victime aussi, elle parle. Parce qu'il y a des fois la peur, il y a beaucoup de choses. Donc si la victime, elle ne veut pas en parler, c'est
à la justice, à la police, de faire son travail quand on tague les gens. Que les plateformes soient responsabilisées, qu'elles se responsabilisent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de laisser le cyberharcèlement s'intensifier de la sorte dans le monde, et spécifiquement sur le continent africain.
Et d'où l'importance de ce film. Dernier message très rapide aussi pour vous, Aïcha Dabo, un message pour nos auditrices très rapidement.
Merci, je suis d'accord avec tout ce que Mme Hachette a dit et moi je vais juste inviter les gens à visiter notre plateforme taxawtemm.net Tahautem. Donc il y a l'outil et d'autres informations supplémentaires et aussi j'aimerais souligner le fait qu'en fait de ne pas juste se limiter aux femmes qui sont au devant de la scène mais aussi il y a les femmes qui sont dans les communautés reculées qui en ont besoin. On a amené des formations dans les régions reculées avec des femmes qui utilisent WhatsApp et des outils sans vraiment connaître les risques et autres. Donc moi mon plaidoyer ou bien mon appel en tout cas ce sera d'élargir davantage le travail et merci à vous et
merci à vous, Aïcha Dabo, activiste. On mettra le lien sur notre page aussi de 8 milliards de voisins et de voisines. Merci beaucoup, Aïcha Amat Mustapha. Bonne chance pour la suite de ce documentaire Harcèlement 2.0, résilience des Africaines connectées. À très bientôt. Merci. On se quitte avec le groupe Siraba avec ce titre d'Amba Kélé sur RFI. Avec Damba Kélé sur RFI, 8 milliards de voisins et de voisines. C'est fini, merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin, Thibaut Mata et Adam Saïdan. On se retrouve bien sûr demain à la même heure pour parler des amitiés adolescentes essentielles pour s'émanciper des darons et des daronnes, comme disent les jeunes chez nous. D'ailleurs, racontez-nous vous vos souvenirs d'amitié d'ado. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. À suivre dans quelques instants le journal sur RFI. Belle journée.